Alors, mes amis, en cette matinée du 6 août, continuant notre étude sur l'Épître aux Romains, nous abordons maintenant le chapitre 7, où nous allons considérer ce qu'est la vie nouvelle et notre affranchissement de la loi. Et avant toute chose, nous allons demander le secours de Dieu. Ô Père, nous voulons te demander que tu diriges nos pensées vers ce qui est essentiel, vers ce que tu veux nous communiquer vraiment ce matin. Tu sais que sur ce chapitre, il y a eu des discussions à l'infini et que plusieurs se sont divisés au sujet de son interprétation. Nous ne voulons pas essayer de l'interpréter. Nous voulons simplement recevoir ce qu'il nous dit d'essentiel et nous voulons te demander que nous puissions l'aborder avec un cœur d'enfant en ne nous rendant pas stupides par notre science et notre intelligence, mais que nous nous souvenions de ce que tu as dit, Seigneur Jésus. Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées à de petits enfants. Donne-nous ces cœurs d'enfants ce matin. Nous te le demandons pour notre bien suprême. En Jésus. Amen. Alors, si dans le premier chapitre de son épître, l'apôtre nous a parlé des péchés, fruits de la désobéissance du premier homme, dès le verset 12 du chapitre 5, Paul s'est mis, comme nous l'avons vu, à traiter la question du péché au singulier. Cet état dans lequel l'homme s'est trouvé depuis la faute d'Adam. Il ne nous entretient plus de ce que l'homme a fait, mais de ce que l'homme est par nature. Et je pense que nous sommes arrivés à admettre que selon l'apôtre, l'homme est totalement perdu et qu'il ne peut être sauvé que par une grâce de Dieu. La loi qui avait été donnée par Moïse n'avait pas amené l'homme au salut, ce n'était pas son but. La loi n'avait fait que manifester les abîmes du cœur humain et avait prouvé que l'homme était incapable d'accomplir par ses propres forces la volonté de Dieu. Son salut donc ne pouvait venir que de Dieu qui envoya son Fils unique au temps convenable pour le réaliser. Comme il le dit dans l'Évangile de Jean, si la loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité vinrent par Jésus. Mais pour connaître le plein salut de Dieu, nous ne devons pas croire seulement au sacrifice du Christ, nous devons nous identifier à Jésus par la foi et reconnaître que sa mort a entraîné notre mort. Et cela nous signifie dans le baptême que comme lui est mort, nous aussi, nous sommes morts. Et si lui est mort au péché, non seulement pour nos péchés, mais s'il est mort au péché, nous sommes morts aussi avec lui. Non seulement dans la mort de Jésus, nous avons trouvé le pardon de nos fautes, mais la délivrance de la puissance du péché par notre mort avec lui, avec Jésus, pour ressusciter en lui et vivre de cette vie nouvelle. Ces vérités ont été développées au chapitre 6, qui a été considéré hier. Alors, au chapitre 7, Paul continue son sujet en nous donnant une image de ce qui nous arrive quand nous passons du royaume de Satan à Dieu, et des ténèbres à la lumière. Comme Paul a affirmé que le péché ne dominerait plus sur nous, puisque nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce, alors Paul va illustrer notre nouvel état par un exemple emprunté au mariage. C'est ce que nous avons dans les 6 premiers versets. Par notre union avec Christ dès sa mort et sa résurrection, nous mourons quant au vieil homme et le nouvel homme qui est Christ en nous ressuscite et vit d'une vie nouvelle. À l'esclavage de la loi, du péché et de la mort, succède l'esclavage de la justice, c'est-à-dire la vraie liberté et la vie. Vous vous souvenez que Jésus disait aux Juifs, observateurs de la loi, et qui, à un certain moment, ont prétendu croire en lui dans le chapitre 8 de Jean, il leur a dit ceci. Je vais lire le verset pour ne pas faire d'erreur et que vous soyez bien convaincus que c'est la parole du Seigneur qui vous est prêchée. Il est dit au verset 30, comme Jésus parlait, plusieurs crurent en lui. Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc nous voyons que nous pouvons nous croire libres, alors qu'en réalité, depuis la chute, l'homme n'est plus réellement libre. Il se croit libre. Mais en réalité, il n'est qu'un esclave, esclave du péché, esclave de ses tendances, qu'il n'arrive pas lui-même à dominer. Et c'est là que nous devons comprendre que en dehors de Jésus, nous ne pouvons rien faire. C'est aussi une parole et qu'il a dit avec force à ses disciples, hors de moi, vous ne pouvez rien faire. La chair en nous ne s'améliore pas. Et tant que vous comptez sur votre chair pour vous en tirer, eh bien, vous serez continuellement découragé, désespéré. Le remède, il n'est pas dans une possible amélioration de la chair, mais il est dans un abandon total au Seigneur, qui va réaliser la volonté de Dieu en vous. Vous ne pouvez pas la faire, cette volonté de Dieu. C'est lui qui l'a parfaitement accompli, notre Seigneur, et qui, devenant notre Sauveur, va réaliser en nous cette volonté de Dieu. À nous de laisser au Seigneur le champ libre dans notre vie. Alors, je voudrais simplement souligner ceci aujourd'hui. Au lieu de discuter à l'infini sur ce chapitre 7 des Romains, pour savoir de qui l'apôtre parle, s'il parle d'une expérience personnelle, ou s'il présente l'état par lequel passe un nouveau converti, ou s'il est seulement question de l'état d'un homme dont la conscience est réveillée mais qui ne connaît pas encore le Seigneur, au lieu de se diviser, de prendre position pour l'un et pour l'autre, nous voulons simplement retenir que ce chapitre doit nous démontrer d'une façon absolue et que notre chair ne s'améliorera pas et qu'elle est absolument incurable. Et que vouloir glorifier Dieu par nos propres forces nous conduira à l'exténuation, au découragement et au suicide. C'est, je crois, ce que nous devons bien comprendre et qui est essentiel pour nous. Alors, entrons un peu dans le détail. Et je voudrais aussi souligner une chose. Ce n'est pas parce que le chapitre 7 de notre épître suit le chapitre 6 que vous devez penser que les expériences du chapitre 7 doivent suivre ce que nous avons vu au chapitre 6. Non. L'apôtre développe simplement ce qu'il a annoncé au chapitre 6. Et le chapitre 7, c'est plutôt l'état dans lequel un homme se trouve avant de connaître les réalités du chapitre 6. Comprenez-vous? Avant d'avoir réalisé que nous sommes identifiés au Christ dans sa mort. Mais quand vous avez réalisé que vous êtes mort avec Christ, eh bien, ce n'est plus nécessaire de se trouver dans l'état du chapitre 7. Mais nous pouvons entrer directement dans le chapitre 8. Je suis convaincu que les expériences que Paul décrit au chapitre 7 tendent simplement à confirmer la nécessité de croire que notre vie passée a pris fin à la croix. Sinon, il n'y a pas de salut possible. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que ce soit la loi de Moïse ou toute loi, une règle, peu importe, Là encore, les théologiens discutent pour savoir si là, Paul parle de la loi de Moïse ou de la loi générale. Peu importe, ça peut être les deux. Mais ce que nous savons, c'est que l'empire de la loi dure autant que la vie. Toute loi dure pour nous autant que notre vie. Il n'y a pas un moment où nous pouvons échapper à la loi tant que nous sommes en vie. Hein? Vous l'avez bien compris. Si vous restez en vie, vous n'échappez pas à la loi. Vous n'échappez à la loi qu'à quel moment ? À la mort. C'est cela que vous devez bien comprendre. Alors, dans ces versets, Paul poursuit les enseignements qui précèdent. Par notre union avec Christ, dans sa mort et sa résurrection, nous mourons quant au vieil homme. Et le nouvel homme, Christ en nous, ressuscite et vit d'une vie nouvelle. À l'esclavage de la loi, du péché et de la mort, succède, nous le répétons, cet esclavage de la justice, c'est-à-dire de cette vraie liberté. Alors, qui est la femme dont Paul parle ici? Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari, tant qu'il est vivant. Qui est le mari, ou le premier mari? Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qu'il a liée à son mari. Sans ça, vous avez eu une difficulté là pour comprendre cette image. Tant que nous sommes mariés, nous commettons adultère. Si nous appartenons à quelqu'un d'autre qu'à son conjoint. Elle ne peut être déliée de la loi qui l'a liée à son mari qu'à la mort de son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère, devenant la femme d'un autre. Alors, de même, mes frères, vous aussi, vous avez été, par le corps du Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous ne servons de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Qui est la femme? C'est notre âme. Qui est le mari, le premier mari? C'est la loi, mais plus que la loi. C'est le vieil homme. Sur qui la loi a tout pouvoir. Qui est le second mari? C'est le Christ. Alors, c'est une impossibilité d'être réellement à Christ tant que le vieil homme n'est pas mort. Comprenez-vous? Ce n'est pas possible d'être réellement acquis et de connaître la réelle liberté tant que le vieil homme n'est pas mort. Si vous n'acceptez pas la vérité qui est développée dans le chapitre 6, eh bien vous êtes toujours sous la loi. Sinon, vous commettez un adultère spirituel. Car, vous l'avez bien compris, ce qui est mort, ce n'est pas la loi. Ce qui est mort, c'est qui? C'est le vieil homme. Alors, faites attention quand l'apôtre donne une illustration où, dans toutes les paraboles, il faut ne pas trop presser l'image. C'est une image, c'est une comparaison. Mais là, c'est bien que ce n'est pas la loi qui est morte. C'est le vieil homme. Tant qu'il n'est pas mort, ce vieil homme, nous tombons dans un adultère spirituel si nous voulons rejeter le joug de la loi. Comprenez? En nous prévalant à tort de la grâce et en abusant d'une fausse liberté. Ah ben, on est sous la grâce, nous pouvons pécher. Non, tu commets alors un adultère spirituel. Ou bien, si dans cet état, nous voulons accomplir la loi par nos forces naturelles, malgré la domination de la nature corrompue, nous tombons alors dans le pharisaïsme qui rabaisse et matérialise la loi afin de nourrir notre orgueil de cette idée mensongère et que nous avons accompli la loi. Ça, c'est aussi un adultère spirituel. Ce que je voudrais que vous puissiez retenir de tout cela, c'est qu'il faut que vous acceptiez qu'on ne s'en sort pas en dehors de cette mort en Christ. Vous ne vous en sortirez jamais. Vous devez donc revenir et relire le chapitre 6 de l'Épître aux Romains pour réaliser tout ce que l'apôtre veut dire concernant ce chapitre 7. Pour être vraiment écrit et affranchi, il vous faut accepter de mourir avec lui. Vous ne pouvez pas être son disciple si vous ne suivez pas là où il est allé. Et où est-il allé? À la mort. Et vous ne pouvez pas être le disciple de Jésus si vous ne suivez pas dans sa mort pour connaître sa résurrection. Autrement, vous restez sous la domination de la loi. Et alors, sous la domination de la loi, bien vous faites l'expérience des Romains 7, ça va jamais. C'est le conflit perpétuel. À ce conflit perpétuel de Romains 7, il n'y a que cette vérité de notre mort avec Christ qui met fin. Et nous arrivons alors au chapitre 8. Mais maintenant que j'ai accepté de mourir en Christ, est-ce que je suis encore sous la loi? Non. Maintenant que je suis mort, la loi n'a plus de pouvoir sur moi. Mais si je n'admets pas encore cette mort avec Christ, la loi a toujours le pouvoir sur moi et je ne m'en sors pas. Je ne m'y sors pas. Ce sera la lutte continuelle que dont Jean Racine a parlé. Il y a deux hommes en moi. Et il y en a un qui doit être considéré comme mort. Et votre foi, c'est pas une foi. C'est tellement facile de croire que Jésus est mort pour nos péchés. Quel bonheur! Il a porté la peine de nos péchés, puis nous, nous sommes gracieux. Alors, nous nous louons au Seigneur, mais nous restons des charnels. Le vrai salut, qui n'est pas un salut par les œuvres, c'est justement un vrai salut, mais qui nous plonge dans cette mort de Christ, pour que nous connaissions réellement la vie. Nous échappons au pouvoir de la loi que par la mort. Alors réalisons cette mort. Tenez-vous pour mort au péché. Et ce conflit, pour quelle raison? Parce que le Christ en nous, l'espérance de la gloire, vivra lui-même sa vie. Ce n'est pas vous qui essayerez de réaliser la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est quoi? C'est la vie de Jésus en vous. Ce n'est pas votre vie qui se perfectionne, qui s'améliore. Ce n'est pas possible. La vie chrétienne, c'est la vie de Jésus reçue dans mon cœur par la foi pour que ce ne soit plus nous qui vivions, mais Christ qui vit en nous. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Galates chapitre 2, verset 20. C'est le verset essentiel du christianisme. Ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi. Alors, notre âme est désormais dans une union merveilleuse avec le Seigneur Jésus. Mais vous voyez, ce salut, c'est pas quelque chose que l'on a compris à un moment donné. Ce salut, c'est quelqu'un qui vient envahir votre vie. C'est jamais quelque chose. Le salut, c'est pas une idée. Et le renoncement à soi nous amène à l'acceptation de l'autre, avec un grand A. Mais c'est pas pour nous reprendre sans cesse. Et alors, nous aurons l'occasion demain, en considérant le chapitre 8, de faire un parallèle entre ce qu'est le vieil homme et ce qu'est le nouvel homme. Entre ce qu'est la chair et ce qu'est l'esprit. Entre ce qu'est le péché et ce qu'est la justice. Être esclave du péché ou esclave maintenant de la justice. Lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqué par la loi, parce que ce que vous devez bien comprendre, c'est que la loi n'a pas été donnée pour que l'homme puisse être sauvé par la loi. Bien sûr, Dieu a dit à Moïse en lui donnant la loi, mais puisque Israël prétend vouloir faire ma volonté, eh bien, tu leur diras toutes ces choses et vous vivrez. Pour qu'il y ait la vie, il fallait l'accomplissement de la loi. Mais qu'est-ce que la loi a prouvé? La loi a prouvé que l'homme était incapable d'accomplir la volonté de Dieu. Et c'est pour cela qu'elle a été donnée, pour convaincre l'homme de péché. Le ministère de la loi, ce n'est pas d'amener les hommes à la perfection, mais de les convaincre de péché. Et de les convaincre de la justice de Dieu, que le péché mérite la mort. Il faut qu'on en arrive à ce point de ne plus pouvoir se supporter. Il faut qu'on arrive à ce point que l'on haïra notre vie et qu'on désirera la mort. Alors, désirant cette mort, on apprend que Jésus est venu pour nous donner cette possibilité de mourir, non pas d'un suicide, mais de mourir en lui, dans sa mort. Et c'est cela qui nous délivrera. Et alors, si nous sommes délivrés, la loi, au fond, elle nous a conduit jusqu'à qui? Jusqu'à Jésus. La loi nous fait désirer Jésus, parce qu'on n'arrive pas à l'accomplir. Alors on dit, qui me délivrera de cette situation? Cela nous fait crier après quelqu'un. Comprenez-vous? Voilà le rôle de la loi. Ne pensez jamais que, en étant sous la loi, vous arriverez. La loi vous convainc que vous ne pouvez pas. La loi vous révèle les abîmes de votre cœur. Mais alors, vous n'allez pas vous décourager. La loi vous amène à vous voir tel que Dieu vous voit. Alors, mettez-vous d'accord avec Dieu. Et puisqu'il vous a donné ce moyen de mourir dans le Seigneur, acceptez, non plus de vouloir faire des efforts, mais de vous abandonner. Cessez vos lituelles, cessez-vous dans ses bras. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi, parce qu'il suffit qu'on défende quelque chose pour que vous soyez tentés concernant cette chose. On a raconté cette histoire qu'une femme prétendait toujours que si elle avait été à la place d'eux, qu'elle n'aurait pas péché, qu'elle aurait réussi à vaincre la tentation de Satan. Et son mari, qui était un enfant de Dieu, avancé, était un peu fatigué par les prétentions de sa femme, qu'elle aurait fait mieux qu'elle. Alors, un jour, il lui a amené un coffret en lui demandant de ne pas l'ouvrir. Et ce qui est arrivé, une fois le mari, elle a dit, non, je ne vais pas l'ouvrir, mais quand même, c'est venu tellement fort, c'est là où est. En tout cas, le tétin. Il y avait une souris. Il y avait une souris dedans. Et elle est sortie. Et alors, cette femme a compris. Mais c'est simplement pour vous dire, illustrer. Il suffit qu'il y ait une défense pour que la convoitise. Mais, et voilà ce qu'on voit dans notre cœur. Mais sans cela, on ne connaît pas son propre cœur, on ne s'imagine pas cela. Et il faut tout à coup qu'il y ait cette loi pour que notre état nous soit révélé. Mais est-ce que cet état était déjà là? Oui, il était là, mais nous n'en avions pas conscience. Alors la loi nous a été donnée pour nous rendre conscients de notre état. Mais maintenant, verset 6. Nous avons été dégagés de la loi, étant morts. Enfin, nous sommes morts dans le Christ, à cette loi à laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, vous le comprenez bien, on ne fait plus les choses en vue de mériter quelque chose, c'est plus une tension, mais on fait les choses dans un esprit nouveau, parce que l'amour est versé dans nos cœurs. On ne fait plus ces choses pour être sauvé, mais parce qu'il nous va sauver. Et que ce salut est total. Et que ce que vous êtes en Christ. Aux yeux de Dieu, c'est cela que vous êtes. Alors, les versets suivants, c'est pour répondre à certaines objections. Verset 7. Que dirons-nous donc? Alors, la loi est-elle péché? Vous l'avez compris, maintenant, c'est pas la loi en elle-même est bonne. Et ce n'est pas la loi qui est morte dans cette histoire. C'est notre ancienne manière de vivre, le vieil homme, qui a pris fin. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Ça ne veut pas dire que le péché n'était pas là, mais quand la loi a été là, elle m'a révélé ma nature. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit, tu ne convoiteras point. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises, car sans loi, le péché est mort, mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Mais il ne se manifeste pas comme péché. Pour moi, étant autrefois sans loi, mais vous voyez, c'est une manière de parler. Ne dites pas que c'est Paul qui raconte son expérience personnelle. Pour moi, autrefois sans loi, est-ce qu'il était sans loi, lui? Autrefois, comme juif? Non! Il était justement un observateur de la loi. Alors, comprenez bien que là, c'est une manière de parler que Paul emploie pour essayer de faire comprendre ces vérités qu'il a développées dans le chapitre 6. Pour moi, autrefois, sans loi, je vivais. Je vivais, bien sûr. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie. Donc il était là, le péché. Et la loi a simplement manifesté la puissance de ce péché. Et moi, je mourus. Nous étions morts dans nos fautes et dans nos péchés, spirituellement. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie, il aurait conduit à la vie si on avait eu la force de la conclure, faites ces choses et vous vivrez. Le commandement devait conduire à la vie si l'homme en avait été capable. Mais l'homme, s'étant séparé de Dieu, était privé de la vie de Dieu. Et si vous êtes privé de la vie de Dieu, est-ce que vous pouvez plaire à Dieu? Ce n'est que cette vie divine qui peut plaire à Dieu. C'est ce que Jésus disait. Moi, je fais toujours les choses qui plaisent à Dieu. Et c'est après avoir dit cela que plusieurs ont cru en lui et que Jésus leur dit, eh bien, persévérez dans la vérité et cette vérité vous affranchira. Et qu'il leur dit ensuite, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché saisissant l'occasion me saisit et le commandement par le commandement et par lui, me fit mourir. La loi, alors comprenez-le toujours, la loi est donc sainte, le commandement est saint, le commandement est juste, le commandement est bon. La loi demeure et dans sa perfection, même si moi je n'arrive pas à l'accomplir. Mais ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais le péché, afin qu'il se manifestât comme péché, vous savez que les gens n'ont pas conscience du péché. Ils ne réalisent pas ce que c'est que le péché. Alors, c'est ce qu'il faudra pour qu'on réalise que le péché, c'est le péché, et que c'est une erreur aux yeux de Dieu. Eh bien, mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme péché, en me donnant la mort, par ce qui est bon, et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Il faut qu'on arrive à cette horreur du péché. Et nous pouvons employer la loi pour amener un homme à cette horreur du péché. Je pense que nous pouvons employer la loi dans la prédication de l'Évangile pour convaincre les hommes de péché. Et que c'est peut-être une façon très facile de dire aux gens ben, acceptez Jésus-Christ, faites sauveur, alors vous acceptez Jésus-Christ comme ça. Mais vous n'allez pas passer par cette conviction de péché. Et alors, Jésus-Christ, c'est le circuit américain. C'est beaucoup. On a ça. On a Jésus. Alors, on est sauvé de quoi? Pas grand chose. Parce qu'on n'a jamais été profondément convaincu de péché. Alors, c'est pour ça qu'il faut faire attention à la manière dont nous annonçons la parole. Et voyez-vous, Jésus, quand il était là, mais c'était déjà sa vie, sa présence pour les gens religieux qui se croyaient être arrivés, Jésus c'était un gêneur. Il n'avait pas pu parler, Jésus était un gêneur. Mais qui est-ce qui se sentait attiré par Jésus? C'était ceux qui savaient pécheurs. C'est vrai ça. Les prostituées et les pécheurs s'approchaient de lui pour l'entendre. Parce qu'ils se sentaient auprès d'un sauveur. De quelqu'un qui pouvait les sortir de leur état. Mais les autres, ils étaient tellement sûrs d'être bien observateurs de la loi, mais de quelle loi? De la lettre des commandements. Tandis que si vous avez entendu Jésus dans son développement de la loi dans le sermon sur la montagne, ben, est-ce que vous êtes encore à l'aise? Quand vous entendez Jésus reprendre les commandements de Moïse et dire, mais moi, je vous dis. Alors, si j'ai observé la lettre, ça allait, mais maintenant avec Jésus, ça ne va plus du tout. Et je suis convaincu de péché. C'est pas tué. Mais j'ai pu être méchant. Je n'ai pas donné. Je n'ai pas volé peut-être, mais je n'ai pas donné. Je n'ai pas commis adultère, mais dans mes pensées, je ne suis pas un fou. J'ai convoité. Voilà ce que nous montre Jésus. J'étais déjà dans l'adultère. Voilà ta nature, voilà ce que tu es. Donc Jésus va beaucoup plus loin que Moïse. Et en vue de quoi? De montrer aux hommes la nécessité de son intervention et de son salut. Et Dieu l'a envoyé dans son amour. Et puis, sur la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Accomplissez le reste. Est-ce que vous êtes convaincu de cela? Il n'a pas dit, vous voyez, jusqu'où je suis allé, hein? Presque comme les Canadiens jusqu'au bout. Alors, c'est le reste. Et si vous êtes allé jusqu'au bout, c'est le but. Tout est accompli. Tout est accompli. Vous avez un salut total, un salut parfait en Jésus-Christ. Mais que Dieu nous le révèle dans toute sa splendeur. Verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Ça, nous le savons. Mais moi, je suis charnel. Vendu au péché. Mais quand il dit ça, c'est de nouveau sa façon de parler. Il développe ce sujet pour que nous soyons bien convaincus qu'on ne s'en tire pas. Depuis qu'on s'est séparé de Dieu, qu'est-ce qu'on est? Charnel. Mais tant qu'Adam était en relation avec Dieu, Dieu étant la source de vie, Adam avait la vie. Dieu étant la source d'amour, Adam était en liaison avec l'amour. Il était en liaison avec la lumière, puisque Dieu est lumière. Puisque Dieu était, Adam l'avait par sa liaison avec Dieu. Mais le jour où il a désobéi, les liens sont coupés. La lampe s'est éteinte en lui, et alors, eh bien, il est tombé dans la mort. Et il est devenu charnel. Il est tombé sur lui-même, c'est ça la chute au fond. Et Dieu constate la chose au chapitre 6 de la Genèse. Il dit, l'homme n'est plus que chair. Il est coupé de la vie de l'esprit. Il n'est plus que chair. Alors demandez à la chair de faire quelque chose. Elle ne peut rien. La chair ne peut pas plaire à Dieu. Puis vous voulez plaire à Dieu. Dieu vous dit 36 fois à travers toute l'écriture que la chair ne peut plaire à Dieu. Et qu'elle ne l'est eux-mêmes pas. Et vous voyez une multitude de gens, même des chrétiens, qui essayent de plaire à Dieu par leur propre effort. C'est pas possible. Alors vous êtes dans une mauvaise voie. Mais c'est pas là que Dieu vous veut. Le salut qu'il a accompli, c'est pour que vous soyez libérés de cette lutte continuelle. Moi je suis charnel devant Dieu, péché, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je veux. Parce que ça, c'est une conscience qui est réveillée hein, devant la voix de Dieu. Et qui découvre qu'on fait ce qui va être elle. C'est bien de ne pas tuer. C'est bien de ne pas voler. Et c'est bien de ne pas commettre adultère, de ne pas voler la femme d'un autre. Parce que si ça nous arrivait à nous, on ne serait pas content. Alors, quand on réalise tout cela, on se dit, la loi est spirituelle, la loi est bonne, c'est vrai. Mais on voit qu'on est capable de faire toutes ces choses. Alors, on n'y comprend plus rien. Je fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi alors qu'il fait, mais c'est le péché qui habite en moi. C'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que je sois mort au péché. Et le péché n'aura plus de puissance sur moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. Et voyez-vous, nous n'allons pas discuter à l'infini là-dessus. Mais si vous avez retenu ça, c'est ça le chapitre 7 des Romains. Que vous arriviez à comprendre d'une façon définitive que ce qui est bon n'habite point en vous. Et que ce n'est pas votre conversion qui a changé quelque chose à la terre. Ce qui est bon n'habite point en vous. Et si vous ne vous en souvenez pas toute votre vie de cela, vous êtes tout près de la chute. Et je vous donne comme exemple de méditer sur la vie de David, qui vous montre qu'un homme qui a pu écrire les plus beaux psaumes, pour un moment, lui qui était si spirituel, où il n'était pas à sa place, quand il est resté à Jérusalem, au lieu d'être à la tête de son armée, il a voulu prendre du repos, se promener sur le toit, il a vu la femme d'un autre, il l'a convoité, il est tombé. Et ça l'a entraîné, d'abord, à l'adultère, après sa convoitise, il y a eu l'adultère, on ne joue pas avec ça, et puis, ça l'a conduit jusqu'au crime. Voilà un homme pieux, mais qui pour un instant n'a pas su veiller, et qui est tombé. Alors, ne me dites pas que nous pouvons maintenant, nous sommes sauvés, nous pouvons nous relâcher maintenant. Nous marchons de foi en foi. La vie chrétienne se renouvelle tous les jours. Et c'est un salut quotidien. Comprenez-vous? C'est pas « je suis sauvé il y a 50 ans ». Oui, c'est vrai, dans un sens. Mais je suis sauvé tous les jours. Et puis alors, pour réaliser cette vie du Christ, je dois mourir aussi tous les jours. C'est ce que dit Saint-Paul de façon très claire. Je meurs chaque jour. C'est pas, je me souviens qu'un jour j'étais immergé. C'est vrai que le baptême signifie tout cela. Mais c'est pas ce jour-là que je suis mort avec Christ. Tout est fait que nous sommes morts dans le Christ. À la croix. Tout est fait que le Seigneur a porté nos péchés. Depuis notre naissance. Avant notre naissance. L'œuvre a été faite. Et notre identification au Christ dans sa mort a été faite avant notre naissance. Nous avons été prédestinés dès avant la fondation du monde. Dans le Christ, c'était nous, par Dieu, que nous serions en lui. Si nous acceptons sa parole. Alors, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. Ça, c'est une chose formidable quand on a compris cela. C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Alors, car je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, ou cette règle, qui ne peut pas en sortir, quand je veux faire le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, intérieurement, dans notre conscience, on dit, c'est vrai, c'est bien, c'est ce qu'il nous faudrait, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Et une loi, pour l'illustrer, prenez l'image qu'on donne souvent de la loi de la pesanteur. Vous voyez mon stylo. Il est parfait. Mais si je lui dis, stylo, reste là. J'exhorte mon stylo à rester là. Qu'est-ce qu'il subit? Malgré mes exhortations, il subit la loi de l'absence. Mais voilà ce que c'est que la loi du péché. Nous sommes comme le stylo. Nous subissons la loi du péché. Vous ne pouvez pas vous en sortir, vous tomberez. Qu'est-ce qui peut affranchir mon stylo de la loi de l'absence? La loi de la vie qui se trouve dans mon bras, c'est ce que nous verrons demain, peut affranchir mon stylo de la loi de l'absence. Si je prends mon stylo en main, la loi de vie qui est dans mon bras m'affranchit de la loi de la pesanteur. Une autre loi m'affranchit de la loi qui me fait tomber. Eh bien, si vous êtes à Christ, si vous vous donnez à Christ, si vous vous laissez saisir par Christ, c'est le Christ qui vous tient dedans et qui vous affranchit de la loi du péché. Alors demeurez en lui et vous connaîtrez ce triomphe, cette histoire. Et alors ce stylo qui est parfaitement inutile quand il est laissé à lui-même devient utile quand il l'emploie. Nous sommes parfaitement inutiles quand nous voulons faire nous-mêmes les choses. Nous ne faisons rien. On nous donne beaucoup de choses, mais au lieu de Dieu, ça s'appelle rien. Parce que c'est une preuve qu'on n'a pas l'amour. Parce que si on avait l'amour, on laisserait Jésus faire tout. On laisserait Jésus faire tout parce qu'on l'aurait accepté. Relisez le chapitre 13 des Corinthiens. Parce que tout ce que vous ferez, tout ce que vous penserez avoir comme don, si ce n'est pas l'amour, ça s'appelle rien. Alors, verset 24, misérable que je suis, est-ce que nous en arrivons là? Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, c'est fait. Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ est là. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Voilà la conclusion. Est-ce qu'il y a des questions? Comment? Si on peut voir la lutte du chrétien, il y a bien une lutte, si vous voulez, mais une lutte dans le sens de réaliser, de vivre cette mort de Jésus, de nous appuyer sur lui, de reconnaître sans cesse que c'est vrai qu'on ne peut rien faire, et quand on voit notre incapacité à faire le bien, ou même que, n'ayant pas veillé, on est tombé dans une faute, au lieu de nous désespérer, on confesse immédiatement cette faute et on dit, comme tu as raison, Seigneur, que je ne pouvais pas arriver par moi-même, je vois ce que je suis. Alors, je donne raison à Dieu, je justifie Dieu, constamment, parce que je rends justice à Dieu qui dit que l'homme est corrompu et qu'il ne peut rien faire pour lui. De sorte que, dans le chapitre 4 de l'Épître aux Corinthiens, il y a cette parole merveilleuse. 2 Corinthiens, chapitre 4. Verset 7, nous portons ce trésor, donc ce merveilleux salut, Jésus, hein, nous portons, mais dans des vases de terre. Si vous regardez le vase, c'est un vase de terre, ce que je disais hier, l'enveloppe. Hein. Ce n'est pas à cela que vous devez regarder, mais vous devez croire qu'il y a le trésor. Afin que cette grande puissance de salut soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Pour que ce ne soit pas toujours nous. Nous sommes pressés de toute manière. Oui, il y a une pression. Hein. Mais non réduit à l'extrémité. Il n'y a plus d'extrémité pour nous. Mais il y a cette pression parce qu'on est encore dans un monde
de péché. Puis on a encore la chair en nous, qui reste jusqu'à notre mort. Mais la manifestation de la chair et du péché qui avait donné le vieil homme, ça nous devons le reconnaître comme mort. C'est ce que nous verrons demain. C'est pas devant ces cas. Nous sommes pressés de toute manière, mais nous réduisons à l'extrémité. Il n'y a pas d'extrémité pour les chrétiens. Nous sommes dans la détresse, mais non comme des espoirs. Nous connaîtrons les détresses parce que notre chair est faible, c'est vrai. Mais nous ne serons jamais dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Là où nous voyons la vie de la chair qui voudrait se manifester, c'est ce qui nous apporter immédiatement dans la foi, la mort de Jésus. Seigneur, là aussi, je suis mort. C'est un combat, oui. Mais c'est une lutte de foi, c'est pas des efforts. Alors, qu'est-ce qu'il faut que nous ayons une pensée qui soit amenée captive à l'obéissance du Christ? Oui, aucune épreuve ne vous est survenue, aucune tentation qui n'ait été humaine. Et Dieu ne permettra pas que vous soyez tenté ou éprouvé au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve, il sera aussi l'issue afin que vous puissiez la supporter. Vous pouvez être absolument tranquille que Dieu ne vous tentera pas au-delà de vos forces. D'abord, il ne tente personne. Il nous éprouve pour nous faire grandir dans la foi, parce qu'il est ambitieux pour nous. Mais, comme c'est Jésus qui est en vous, il y a toujours la porte, parce que Jésus est la porte. Je suis la porte. Il est l'issue. Il n'y a donc plus d'extrémité. Mais nous devons porter toujours encore la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit manifestée. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. C'est là, dans notre chair mortelle, que la vie de Jésus doit être manifestée.
Il n'y avait pas un danger de penser, d'accord, comme je dis là, à ce moment-là,
Mais ça, quand il est, c'est toujours l'homme tout entier qui est envisagé par l'apôtre. Et il ne faut pas croire que le péché n'est que dans le corps, c'est pas du tout ça. Il est dans la pensée. Le péché est dans la pensée, c'est tout d'abord. Le péché, c'est une attitude de la volonté qui dit non à Dieu. Ça, c'est pas nécessairement dans le corps. Et au contraire, parce que votre corps, ça nous allons l'avoir dans Romains 12, nous devons le livrer à Dieu comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. De sorte que si vous avez la vie de Dieu en vous, eh bien, les premières conséquences de cette vie, c'est aussi d'avoir les soins du corps. Parce que c'est ce que le monde voit, le corps. Alors, un chrétien qui ne se lave pas, c'est un triste chrétien. C'est le temple du Saint-Esprit. Mais cela, nous devons le comprendre. Oui, mais l'aimer d'une façon normale, puisque Dieu te l'a donné comme temple. Mais on ne sera pas idolâtre de son corps. Mais regardez, c'est tout l'enseignement de Jésus. Quand tu jeûnes, eh bien, lave-toi. Parfume-toi. Pour qu'on ne voit pas. Il y a des gens qui ne veulent plus aller dans certaines communautés parce que ça sent mauvais. C'est vrai. C'est pas le mépris du corps. Seigneur n'a jamais tenu le mépris du corps. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Pour moi, autant que ça, c'est en loi. Mais je dis que c'est une façon de parler de l'apôtre. Pour nous montrer. Quand il n'y avait pas la loi, lui, il n'a pas été dans cet état-là, parce qu'il a toujours eu la loi, puisqu'il était, de sorte que c'est bien une image qu'il donne là. Parce que Paul, il dit qu'il était un observateur de la loi, de la fête des pharisiens, etc. Mais il veut nous montrer que s'il se place dans le temps où les hommes étaient sans loi, ou avant la conversion, on est sans loi, alors on vit. Je vivais, mais tout d'un coup, avant ma conversion, sans loi, je vivais ce que je voulais. Mais pas vivais. Mais oui, mais je vivais d'une façon corporelle, oui. Je respirais, si tu veux. Tu comprends? Je n'ai pas de connaissance de la loi, donc. Hein? Mais tout le commandement est venu, le péché repris, et moi je mourrai. Mais c'est pour nous montrer que le petit qui est sans loi, ça lui fait un coup. Bibi. Mais est-ce que c'est une vie, ça? C'est une mort. C'est un cadavre. C'est justement le cortège, là, hein. Le cadavre. Hein? Cortège du cadavre. Il le dit. Vous êtes dans le cortège du cadavre? Mais c'est ce que nous étions tous. Des morts qui déambulaient. Vous étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés, dans lesquels vous marchiez. Enfin, vous marchez, c'est la marche des morts, ça. Autrefois, selon le prince de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, qu'est-ce qui nous faisait marcher? Notre père. Qui c'était notre père? Satan. Vous aviez pour père le diable. Hein? Alors bon, on vivait avec Satan. On vivait de la vie de Satan. Animé par l'esprit de Satan. Mais en réalité, nous étions morts dans nos fautes et dans nos péchés. Et maintenant que nous avons Christ, nous sommes rendus vivants. Et si tu n'admets pas cette nécessité de la mort, tu restes sous la loi.
Mais donc, vous avez parlé un peu de la grâce, parce que si
tu prends simplement que maintenant nous avons la grâce en Jésus-Christ. Et alors, si je vais de ce qui est dit dans le chapitre 6, alors est-ce qu'on peut pécher pour que la grâce abonde? Non. Pour que nous vivions vraiment de la grâce, il faut qu'on ait accepté la mort. Parce que si tu n'as pas accepté cette mort qui t'empêchera de vivre dans le péché, tu es sous la loi. Tu restes sous la loi. C'est-à-dire les exigences de la loi sont toujours sur toi. Parce qu'en fait, c'est un adultère spirituel. Là. Regardez alors ce qu'il est dit dans Jacques. Verset 1er du chapitre 4, épître de Jacques. D'où viennent les lits? Et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos mains? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en vous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il s'enfuira de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Il y a encore une autre question. De l'homme intérieur, intérieurement, dans sa conscience. Il est d'accord avec la loi de Dieu. Mais c'est de nouveau une façon de parler. Ce n'est pas son expérience propre. Parce que lui, il est mort avec Christ. Mais il nous présente le cas de l'homme qui pense pouvoir, de l'homme naturel. L'homme naturel, donc, comme il est créature de Dieu, il peut encore admettre que la loi de Dieu est bonne. Mais, étant donné son état de séparation d'avec Dieu, sans le Seigneur, eh bien, il sert la loi du péché. Il ne peut pas faire autrement. Il ne le peut pas. C'est ce que nous allons voir demain. Mais ce n'est pas des gens qui sont régénérés, ça. C'est comme ça, il y a pas... Et c'est cela de faire que les gens acceptent le Seigneur. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, il n'y a pas... ils sont sauvés de quoi? De rien du tout. Ils ne connaissent pas la valeur de leur salut. Alors, c'est si peu de choses, c'est salut gratuit. Ça n'a rien coûté. Ça n'a pas de valeur. Alors, ils ne sont pas vraiment régénérés. Alors, on peut parler de conversion. C'est une conversion. Parce que vous voyez, quand un homme est en train de se noyer, vous croyez qu'il discute beaucoup? Si on lui jette la corde, qu'est-ce qu'il fait? Il la prend, c'est tout. Et il n'y a pas de discussion. Mais après, il y a une histoire à raconter. Il peut dire de quoi il a été sauvé, puis il peut parler de celui qui lui a jeté la corde. Il a quelque chose à dire. Est-ce qu'une personne qui était dans un état de péché avancé, disons, et qui est sauvée, est-ce qu'elle reconnaît davantage la grâce? Tiens, oui. Ça, c'est vrai. Mais je ne vous dis pas, péchez davantage pour qu'après, vous connaissiez davantage la grâce. Parce que, quand nous connaîtrons comme nous avons été connus, quand nous saurons tout ce que Dieu pouvait voir dans nos cœurs, parce que nous connaissons mal. Il faut vraiment des expériences bien cuisantes pour qu'on arrive à admettre que le Seigneur a raison. Regardez l'apôtre Pierre. Il était terriblement suffisant quand il disait « Quand même tous se réuniraient, Seigneur, moi, je ne renierai pas. Moi. » Et ce n'était pas très gentil vis-à-vis de ses collègues. Et il l'a dit devant eux. Vous autres, je doute de tout. Je doute de tout. Mais moi, tu peux compter, Seigneur. Je saurais te défendre. Je couperai les oreilles. Je fais une salade. Il n'est pas même capable de tenir une épée convenablement et de frapper comme il faut. Coupeur d'oreilles. Hein? Oui. Et il a fallu qu'il passe par cette expérience humiliante pour reconnaître qu'il ne s'était pas quitté lui-même. Il avait dit avant, Seigneur, nous avons tout quitté, qu'est-ce qui nous arrivera? Mais il ne s'était pas quitté. Vous pouvez quitter Dieu des choses. Or, justement, le salut, ce n'est pas quitter des choses, c'est se quitter. Tout l'évangile, c'est renonce à toi. Ce n'est pas renonce à des choses. Mais la religion, c'est renonce à des choses. Mais Jésus se renonce à toi. Et il nous donne toutes choses. Il faut arriver à cette faillite. Même Job. Job, c'était pourtant un être si pieux que Dieu lui-même rendait témoignage de lui. Il n'y en a pas un comme lui, parfait, droit, craignant Dieu sur ce qu'on dit. Il disait ça à Satan. Eh bien, tout, il a dû passer par toute son épreuve et à la fin, que Dieu lui parle, il dit, j'ai parlé sans comprendre des choses qui me dépassent. J'ai horreur de moi. Je me répands dans la poussière et dans la cendre. Et qu'est-ce qui lui arrive? À ce moment-là, une dépression? Non. Il se place plutôt au double. Et Dieu lui donne le double. Pour moi, la vie en abondance que Jésus voudrait nous donner, il nous donne la vie quand nous croyons. Nous avons la vie. Mais la vie en abondance, nous l'avons quand nous l'avons vue. J'avais entendu parler de toi. Et si vous entendez parler du Seigneur et que vous croyez, vous avez la vie. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Mais pour avoir la vie en abondance, il faut l'avoir vue. Et ça, dans le cheminement que nous avons avec le Seigneur, il nous accorde la grâce de nous voir dans sa lumière. Et alors on perd toutes nos idées. Et ça ne nous amène pas à la dépression, ça nous amène au contraire à cette vie de résurrection. Ce n'est plus moi. Ce n'est plus moi. Mais c'est toujours le moi au lieu de lui. Et regardez, dans Romains 7, c'est toujours je. Dans Romains 8, vous verrez, lui. Dans Romains 7, on est centré sur soi-même. Dans Romains 8, on est centré sur Christ. Alors, plus condamnation et plus de séparation. Vous pouvez envisager tout ce qui pourrait arriver. Nous voulons prier. Nous voulons te demander que par ton esprit tu nous amènes à un accord avec toi. Que nous puissions te donner raison sur toute la ligne. Tu es notre Père. Et que nous puissions comprendre d'une façon nouvelle pourquoi il a fallu que Jésus vienne. Nous ne pouvions pas nous en tirer nous-mêmes. Quoi qu'il fasse. Et nous voulons te demander que maintenant qu'il est venu, nous puissions vraiment l'avoir reçu comme non seulement le Sauveur, mais le Seigneur de notre vie.
celui qui a tous les droits sur nos cœurs, et qu'il devienne notre bien-aimé, l'objet de nos pensées, de notre âme, et que rempli de lui-même, au Père, nous puissions avoir des paroles qui soient semblables au ciel, qui soient des paroles qui édifient, qui encouragent, qui fortifient nos frères, des paroles positives, et que nous puissions avoir des actions semblables au ciel. Apprends-nous à dépendre de toi, Seigneur, comme toi tu dépendais de ton Père. Ne disant que ce que tu avais entendu dire par le Père, et ne faisant que ce que tu avais dit faire par le Père. Donne-nous d'avoir un objet à contempler, et une seule chose à te demander, de garder nos yeux sur toi, afin d'être délivré du pouvoir du péché. Car on ne peut pas regarder dans tes yeux et pécher. Amen.